Merci Père bien-aimé. Merci pour ce temps, Seigneur, que tu nous offres de venir devant toi, Seigneur, et tout poser à nouveau à tes pieds. Merci pour ces temps de rafraîchissement, ces temps de guérison, pour ce travail que tu fais au milieu de tes enfants, Seigneur. Merci pour les bénédictions du ciel, Seigneur, que tu attires sur la terre, sur nous. Merci pour tes serviteurs, Seigneur, tes humbles serviteurs qui viennent, Seigneur, ce matin servir ton peuple au travers des louanges, Seigneur, au travers de la parole. Merci pour ce parfum, Seigneur, qui flotte au milieu de nous, Seigneur, et qui monte jusqu'à toi, Seigneur, que nous voulons faire monter jusqu'à toi comme un parfum qui t'est agréable et que tu agrées. Jésus, merci pour ce que tu fais au milieu de nous, Père. Soyez bénis, les amis. Je bénis aussi particulièrement tous ces visages que je ne connais pas ce matin. Et d'où que vous veniez et où que vous alliez, que la grâce de Dieu soit sur vous et soit sur vos vies, soit sur vos familles. Soyez abondamment bénis. Alors, bon, je sors d'une semaine de grippe, et j'ai l'esprit complètement dans un bocal à poisson, vous voyez. Alors j'espère que mes propos ne seront pas à côté de la flaque. Alors vous me pardonnerez, puis vous avez le droit de vous lever et crier « hérétique !» Voilà. Pas trop quand même. En fait, ce matin, je voudrais... J'avais très à cœur de que nous comprenions à quel point la famille de Dieu n'a pas d'égal sur la terre. Nous sommes une église qui est tournée vers l'avenir et qui a laissé derrière elle les ruines du passé. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que sans cet effort de guerre de laisser derrière nous ce qui appartient au passé, nous ne pourrons pas aller vers l'avant. Et des choses aussi simples que celles que je viens de dire sont pourtant tellement primordiales pour le corps de Christ et pour l'avancement du royaume de Dieu sur cette terre, afin que nous puissions briller, laisser derrière nous et nous efforcer d'atteindre ce qui est devant nous. Et pour cela, je voudrais parler de la famille du tabernacle, de l'église du tabernacle, particulièrement de notre Église, et de dire à quel point il est important que nous nous y attachions. Pourquoi l'Église du Tabernacle, plus qu'une autre d'ailleurs? Alors, vous l'aurez peut-être constaté, notre Église n'est pas parfaite. Je dis une bêtise là? Eh non, je ne suis pas parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Mais je dis ça parce que bien souvent, on s'attend à ce que l'autre le soit pour nous, à notre égard. Mais comment attendre de l'autre ce que nous sommes, que nous ne sommes pas capables nous-mêmes de donner à l'autre? Et je voudrais vraiment que ces paroles descendent dans votre cœur afin de bâtir une église qui est bâtie sur l'amour et la soumission les uns aux autres. Alors j'ai récemment discuté avec un frère, il n'est pas là ce matin, je vous fais fi de son nom évidemment. Et vous savez, j'ai rigolé parce que je me suis souvenu de cette parole dans la Bible, vous savez, au niveau de la paille et de la poutre. Il y en a un qui se moque de la paille qui est dans l'œil de son voisin, puis alors il a une poutre dans le sien. Alors moi ça me fait rire parce que je trouve ça très comique. Mais moi, ce frère à qui je parlais, c'était bizarre, lui c'était une bûche en bois. Vous comprenez ce que je veux dire? Il se moquait de la poutre qu'il voyait dans les yeux de ses frères et sœurs dans l'église, et puis c'était une bûche en bois lui. Vous voyez? Et j'ai dit, Je dis, mais mon frère, tout ce que tu reproches en fait à l'Église, toi-même, en fait, tu es pleinement enraciné dans ces choses-là, tu vois? Et c'est ça, en fait. Cette facilité et cette faculté que nous avons de sans cesse remettre l'autre en question alors que nous, nous ne sommes pas capables de nous remettre nous-mêmes en question. Et je dois insister là-dessus parce que nous ne pouvons pas bâtir l'Église du Christ si on ne bâtit pas nos relations sur l'amour. Alors c'est quoi l'identité d'un fils, d'une fille du royaume? Qu'est-ce qui nous caractérise? Alors j'aimerais vous poser la question suivante. Quand Dieu vous a choisi, si tant est que Dieu vous a tendu un jour la main et que vous l'avez saisi, dans quel état vous trouviez-vous à ce moment-là? Est-ce qu'effectivement Dieu ne nous a pas aimés en l'état? Quand il nous a trouvés, il a dit « Mon fils, ma fille, je t'aime tel que tu es, saisis ma main, c'est tout ce que je te demande. » Et il nous a trouvés en l'état, il nous a pris tel que nous étions, pris de la boue dans laquelle nous nous trouvions à ce moment-là. Mais est-ce que l'inverse est possible? C'est-à-dire, est-ce que quand nous avons aimé Dieu, nous l'avons aimé pour ce qu'il était, lui? Ou est-ce que nous avons aimé un Dieu pour ce que nous aurions aimé qu'il soit? Et c'est bien souvent l'erreur que nous faisons, en fait. On s'attend peut-être à ce que Dieu se mette à notre disposition ou à notre niveau à nous, mais ça ne fonctionne pas ainsi. Si lui s'est abaissé au point de venir jusqu'à nous, qu'il s'est fait homme et qu'il nous a donné sa vie, lui, son unique but, c'est de nous tirer vers le haut, vous comprenez? Et c'est ce matin, c'est ce que je veux faire, c'est ce que je veux qu'on fasse, c'est ce que je veux qu'on travaille ensemble, en tant que l'Église du Tabernacle. Je ne souhaite pas qu'on reste en fait sur des acquis ou des choses voilà, qui sont toujours les mêmes et qui sont redondantes. Il y a quelque chose devant nous qui est un champ de mission qui est très grand et je veux que nous entrions dans ces choses-là en tant que corps, en tant qu'Église du Tabernacle et que nous nous élevions, qu'on ne reste pas finalement sur des acquis, mais que nous allions plus haut à la recherche des bénédictions célestes que Dieu nous a réservées. Mais pour ça, ça nous demande de bouger de position. Pour ça, ça nous demande de ne pas sans cesse ramener Dieu à notre condition, mais de notre condition, monter à celle de Dieu. C'est vrai que quand on a accepté Dieu, on a embrassé une vie nouvelle. Et nous sommes devenus des êtres nouveaux. Il n'y a qu'un seul évangile qui mérite toute notre attention. Il n'est pas basé sur nous, cet évangile, il est basé sur Jésus seul, Jésus le Christ. Et cela nous invite à un seul but, lever la tête. Lever la tête, même dans les tribulations, même avec une flèche dans le dos, même la tête ensanglantée. Lever la tête. Lever la tête et sourire à Dieu, dans l'affliction comme dans la joie. Lever la tête dans l'abondance comme dans la pauvreté. Je suis désolé de vous dire que je ne prêcherai jamais l'évangile de prospérité, même si Dieu peut vous faire prospérer, au-delà de toute espérance. Mais ce que je vois autour de moi, ce sont des pauvres gens affamés. Ce que je vois autour de moi, ce sont des gens à l'extrémité du monde, qui sont nos frères et sœurs en la foi, et qui souffrent de la faim, et qui souffrent du martyr. Et l'Église de Dieu n'a jamais été autant persécutée. Donc non, je ne prêcherai pas un évangile de prospérité, qui n'est réservé qu'aux occidentaux. Ça n'existe pas, je suis désolé. L'Église de Christ, elle est beaucoup plus large que l'Église du Tabernacle, que l'Église de France, que l'Église d'Europe. Donc non, je ne prêcherai pas un évangile de prospérité. Bien que je sais pertinemment que Dieu bénit, peut bénir dans les finances, peut bénir dans la santé, il peut vous rendre prospère aussi. Je n'ai rien contre ça, hein, pardon, ne vous méprenez pas. Je n'ai rien contre ça, bien au contraire, et j'ose espérer que beaucoup d'entre nous seront prospères pour pouvoir aider justement nos frères en la foi, qui eux ne le sont pas, qui n'en ont pas la possibilité. Je ne vous promets pas non plus un développement personnel basé sur vous-même. Je ne vous prêcherai pas ça. Je suis désolé. Je suis désolé parce que nous sommes trop égocentrés. Je suis désolé de vous dire que l'évangile selon Saint Bricou ou Saint Barthélemy, je ne sais pas quoi, ça n'existe pas. Alors je ne peux pas prêcher un évangile égocentré, un évangile sur le soi, tourné vers le soi. Pourquoi ? Parce que le seul évangile qui va et qui est celui de Jésus-Christ est tourné vers l'autre. Et le problème, c'est que c'est l'esprit de ce monde qui nous attire vers le bas. C'est l'esprit de ce monde qui nous fait tourner sur notre propre nombril et qui veut nous empêcher à tout prix de se tourner vers l'autre. Je ne prêcherai pas un évangile qui est tourné sur nous-mêmes. Alors je voudrais qu'on, si on peut mettre le passage de 1 Pierre 2, versets 4 à 6, s'il te plaît Max. Approchez-vous de lui, pierre vivante. Pierre vivante, qui est notre Christ, qui a été rejeté par les hommes, mais qui a été choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, nous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Aussi bien le sacerdoce était réservé aux Lévites dans l'Ancien Testament, aussi bien le saint sacerdoce, c'est le nôtre aujourd'hui en tant que corps de Christ, à tous. Afin d'offrir des victimes spirituelles. Les victimes spirituelles, c'est nous. Et j'aime bien ce mot victime. D'autres traductions diraient sacrifice. Afin d'offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Notre évangile est celui de Jésus-Christ. Les victimes spirituelles, c'est nous. Et comment devient-on une victime spirituelle? Et je voudrais qu'on prenne cette fois-ci Hébreux 13, 15 à 16, s'il te plaît. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confessent son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Et aussi, je voudrais qu'on prenne Romains 12, versets 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Écoutez bien les mots qui sont si puissants. À offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. J'aime bien la tournure de la phrase aussi. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors voyez, je ne veux pas, comme je disais tout à l'heure, comment j'ai dit ça déjà, prêcher un évangile basé sur le développement personnel, puisque nous n'appartenons pas au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent cherchera par tous les moyens à nous attirer vers le bas. Par tous les moyens à nous attirer par le bas. Et nous voulons, nous, être attirés par le haut, tirés vers le haut. Amen. Et comment parvenir à un tel degré d'obéissance et de sacrifice de soi? c'est la nouvelle naissance, ça. La nouvelle naissance est un cadeau de Dieu. Ézéchiel 11, 19, 20 nous dit ceci. « Je leur donnerai un cœur qui me sera entièrement dévoué, et je mettrai en eux un esprit nouveau, et j'ôterai de leur être leur cœur dur comme la pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils vivent selon mes ordonnances, qu'ils obéissent à mes lois et les appliquent. Ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » Amen. Maintenant, nous voulons entrer dans une nouvelle dimension en tant que corps de Christ. On a un super logo dans notre église, il est magnifique et il est très concret en Christ, une famille en action. Et le problème de ce corps, je me souviens un coup en discutant avec, c'était même Marie-Jo qui avait posé ça, une question à un groupe qu'on était à ce moment-là, et elle dit « C'est quoi pour vous le problème dans l'église ?» Et quelqu'un a tout à fait spontanément répondu « Les gens !» Le problème dans l'église, c'est les gens. Bon, c'est un peu angoissant comme réponse. Le problème dans l'église, ce sont les gens. Mais les gens sont l'église, enfin. Et effectivement, nous sommes des pierres vivantes, nous vivons, nous avons des problèmes, et ça se ressent au milieu de nous. On n'est pas que malade, on a aussi des incompréhensions. On aimerait, vous vous souvenez ce que j'avais prêché, je crois que c'était l'été dernier, où j'avais dit, en fait on s'est construit des petits royaumes, et puis on aimerait faire rentrer les gens dans notre royaume à nous, royaume qui est régi par nos propres lois, et on voudrait que les gens viens dans mon royaume, on veut les attirer à nous en pensant que les lois qui régissent notre royaume sont meilleures que les lois qui régissent le sien, alors que le seul et unique but de chacun finalement c'est de sortir de son propre royaume pour rejoindre celui du Christ Seigneur Jésus. Alors ouais, nous sommes des pierres vivantes, et avec des pierres vivantes et tous les problèmes que nous avons, il faut qu'on construise malgré tout un édifice basé sur la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Amen. Tant bien que mal. Et c'est pas simple, parce qu'il y a des exemples concrets dans la Bible quand même, voyez. Même l'apôtre Pierre, notre grand frère en la foi, même l'apôtre Pierre qui a marché avec son Seigneur pendant des années, trois ans et demi, même lui, il a fini par renier son Christ. Et vous vous dites, eh ben, il faut construire un édifice avec des frères et sœurs aussi qui parfois renient, qui reviennent, qui partent, qui s'en vont. Vous voyez, Dieu a la carte. Pardon, ne soyez pas offensés par les mots que je peux utiliser. Toutefois, prenez ces paroles et sondez-les dans vos cœurs. Et comprenez ce qui se passe. C'est ça le plus important. C'est pas de dire le frère, il a dit un mot de travers. Écoutez, n'échappez pas à vos responsabilités, s'il vous plaît. Non. Non, non, prenez le mot. Dieu à la carte. Oh, qu'est-ce que c'est Dieu à la carte? Mais Dieu à la carte, c'est qu'on choisit de Dieu seulement ce qui nous intéresse. Et c'est ainsi que c'est au milieu de nous, les frères, les amis. Je suis désolé de le dire. Et c'est ainsi qu'on construit les évangiles selon Saint Bricou. Page 3114 de la Bible. Non, ça n'existe pas. N'allez pas vérifier. Au cas où vous ayez un doute. Ouais, notre ami Pierre renia son Christ trois fois. Mais son Christ, dans sa grande bonté, est revenu le chercher. Donc nous pouvons tous passer par le doute, mes frères et sœurs. Tous. Par de terribles épreuves. Nous pouvons être terrassés, je disais tout à l'heure, une flèche dans le dos et la tête ensanglantée. Pour autant, nous ne quittons pas le champ de bataille. Parce que nous nous battons pour une cause à l'unisson, pour celle de Jésus-Christ. Et nous sommes ensemble. Il n'est aucune pierre qui n'ait pas sa place dans l'édifice. Aucune. Pierre qui n'ait pas sa place dans l'édifice au milieu de nous. Au contraire, je dirais que si une pierre est manquante, c'est tout l'édifice qui en ressent le manque. Et je voudrais qu'on affiche ces deux petites photos, Max, s'il te plaît. Merci pour eux. Voilà. Tu peux laisser comme ça, sinon t'embête pas. Hein. Ouais, comme tu veux. Mais moi, c'est des petites photos qui me parlent. Super, merci. Voilà. Voilà. On construit un édifice tous ensemble, pierre sur pierre, et nous sommes ces pierres vivantes. Et la photo de gauche, vous voyez, il est en train de rajouter une petite pierre, mais vous voyez la pierre du haut, juste en dessus de celle qu'il est en train de rajouter. Là, si cette pierre, elle ne vient pas se mettre à sa place, il manque clairement quelque chose et il y a cette pierre-là qui est souffrante parce qu'elle a une charge en fait qui est doublée. Vous voyez ? Du coup, il manquait cette pierre-là. On ne peut pas se passer de cette pierre. Et la seconde, en fait, j'aime bien parce que ce sont deux visages qui représentent simplement le fait qu'une pierre, en fait, ce sont des pierres vivantes, c'est nous. C'est nous. Et on construit un édifice. Et n'essayez pas d'enlever une pierre. Hein. Vous pouvez assurer que tout l'édifice s'écroule. Voilà. Moi, ça me parle beaucoup, ces photos, parce que ça me fait comprendre, en fait, combien toutes les pierres se ressemblent. Elles sont identiques. Hein. Vous voyez, il n'y en a pas une qui est plus importante que l'autre. Elles sont toutes identiques. Et ça me fait comprendre combien nous avons besoin les uns des autres. Donc je parlais tout à l'heure du fait que, en tant que fils et filles du royaume, nous avons à lutter contre l'esprit de ce monde. Et l'esprit de ce monde, il a été mis en lumière, nous le connaissons, il n'y a plus de secret, il n'y a pas de secret. Par l'esprit, nous sommes en capacité de discerner les temps. L'esprit de ce monde, c'est quoi ? C'est un esprit qui se dresse contre toute forme d'engagement. Cet esprit est au milieu de nous un esprit ravageur et destructeur. Et il combat toute forme d'engagement des enfants de Dieu pour son peuple. C'est l'esprit de ce monde. L'esprit de ce monde est pour la solitude. Il cherchera par tous les moyens à nous séparer du corps de Christ. Mais il cherche aussi par tous les moyens, même pour les gens qui ne sont pas en Christ, de les laisser le plus loin possible des autres, de les éloigner de la communauté pour les faire rentrer dans la solitude. Et l'esprit de ce monde fait croire aux gens qu'ils peuvent se contenter de la solitude. L'esprit de ce monde fait croire aux gens qu'il n'y a plus besoin de se déplacer pour aller dans les magasins, mais que les magasins viennent à eux, avec un transporteur qui te jette ton colis comme ça. L'esprit de ce monde veut te séparer de la communauté, de l'autre. Il veut te faire croire que tu n'as pas besoin de l'autre, que tu n'en as plus besoin. Cet esprit agit grandement et de manière très efficace au milieu de nous. Il tue l'esprit d'engagement. C'est l'esprit de ce monde. Et comme je disais tout à l'heure, l'esprit de ce monde encourage aussi grandement le développement personnel contre celui de la communauté. Alors on a un modèle dans la parole qui est celui de l'Église primitive. Alors moi l'Église primitive c'est quelque chose que, enfin quand je lis ces mots, je me verrais mais tellement vivre en fait comme ça. Je n'y vois aucun comment dire, au contraire, enfin, je veux dire, une grande communauté comme ça, où tout le monde se met au service des uns et des autres, où tout le monde vient et met son bien, le bien qu'il a acquis et qu'il le met en commun pour tout le monde, tout ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça, en fait, au contraire. Bon, le problème, c'est que pour rentrer dans une telle chose, c'est à moi le premier que je m'adresse, hein. Ben, va falloir que je vende tout, puis que je vous donne tout à vous. Voilà, alors je suis pas millionnaire, hein. Mais loin de là, hein. Mais malgré tout, peut-être bien 200 000 balles de biens. Non, parce qu'on est à moitié propriétaire d'une maison, c'est pour ça. Mais vous comprenez, ça voudrait dire, ça sous-entend qu'on va vendre la maison pour pouvoir mettre le fruit en commun et le partager. Alors, c'est facile pour une personne, admettons, qui n'a pas de biens et qui se trouve, en fait, être tout de suite béni par les biens des autres, vous comprenez? Mais comment on fait pour rentrer dans une église comme ça? C'était le fruit naturel, juste après la Pentecôte, de ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, l'esprit était agissant au milieu du peuple. Et ça a été l'un des fruits concrets et directs de l'après-Pentecôte. La création, en fait, de l'Église primitive, les premiers chrétiens, tout ça, la communauté de chrétiens. Et je me dis que bah, c'est un exemple, puisque l'Esprit était agissant d'une manière puissante à ce moment-là, et que ça en était un des fruits directs. Ben, on est en 2024, les choses ont changé. Comment, en 2024, on fait pour rentrer dans ces choses et mesurer ce que nous sommes en capacité de donner en temps et en moyens pour faire vivre le corps de Christ. Comment on fait en 2024 une telle chose? Ah, moi, j'ai pas la réponse, hein, pardon. Navré. En tout cas, la question qui se pose, c'est comment fait-on pour rentrer dans ces œuvres et mesurer, comme je viens de le dire, que nous sommes en capacité, ce que nous sommes en capacité de donner en termes de temps, en termes de moyens, pour faire vivre le corps de Christ. Il ne s'agit pas seulement de mots, en fait, et c'est là que moi je demande pardon, Seigneur, en fait, parce que j'y en a marre des mots, et on a marre de parler tout le temps sans rien faire, enfin. Je dis, mais quand est-ce qu'on va rentrer dans les œuvres, dans les choses vraies, dans le réel, dans le concret? Moi, je me fatigue moi-même, hein, pardon, je vous le dis. Hein. Comment est-ce qu'on va faire la différence, les frères et sœurs? Et comment ce corps va faire la différence? Comment il va se démarquer? Comment il va être la lumière? Mais c'est nous qui avons adhéré au royaume de Christ. C'est nous qui avons dit oui à Jésus. Personne ne nous a forcés, personne. Et ce royaume, il est régi par des lois différentes. Et toutes les clés sont pourtant dans ce magnifique manuel d'utilisation. Toutes. Et la première que je me suis notée, 1 Corinthiens 13. Padam. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Est-ce que tu as un problème avec ton frère ou ta sœur? Est-ce que tu as bien lu 1 Corinthiens 13? Est-ce que tu as bien, dans ce cas, relu 1 Corinthiens 13? Est-ce que tu as, dans ce cas, bien relu 1 Corinthiens 13 et l'as-tu mis en pratique? Mais si nous ne sommes pas capables de mettre en pratique ceci là, eh ben, regardez, nous sommes une cymbale qui retentit. Voilà. C'est aussi simple que ça. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Est-ce que tu as un problème avec ton frère ou avec ta sœur? Est-ce que, comme l'avait répondu cette fille, est-ce que dans l'Église, le problème, ce sont les gens? Parce que du coup, en fait, on va pas réussir à bâtir quoi que ce soit, en fait. En fait, si on n'arrive pas à régler nos différends, ou on n'arrive pas à faire abstraction, ou de voir l'autre, c'est la parole de Dieu qui nous enseigne ça, voyez l'autre supérieur à vous-même. Est-ce qu'on ne peut pas subir quelques petites injustices éventuellement pour voir son frère ou sa sœur supérieur à l'Évangile selon saint Bricout? Est-ce que Bricout ne peut pas se décaler et dire à son frère, vas-y mon frère, je t'aime et puis je veux que tu sois plus grand que moi? Est-ce que l'orgueil n'est pas l'ennemi public numéro un de notre assemblée ou de nos assemblées? Dès lors que tu te places devant un autre, tu n'es déjà plus à ta place. On n'est pas là pour se placer devant un autre, mais on est là pour se placer aux côtés des uns et des autres. Alors, eh bien, quand on nous agissons de la sorte, on manque la cible, hein, inévitablement. Mais mes frères et sœurs, ne soyez... En fait, attendez, pardon... Il faut que ces paroles-là vous libèrent, hein, pas qu'elles vous emprisonnent. Hein. C'est-à-dire que si toutefois vous vous sentez concerné, il faut que ces paroles vous libèrent. Hein. Il faut libérer le pardon, c'est-à-dire au milieu de nous. Hein. La repentance, le pardon, il faut libérer tout ça. Hein. Amen. Ouais, dites amen. Ah ouais, parce que... Non, il faut libérer. Il faut libérer la grâce au milieu de nous. Ça fait un moment que, bon, j'essaye d'agir un petit peu sur les réseaux sociaux, parce que j'aime bien. Alors, je raconte ce que j'ai sur le cœur. Et j'ai eu des retours, à la limite, des retours haineux. Mais vous savez de qui j'ai eu des retours haineux, quand même? De chrétiens. Seigneur Jésus, ta grâce. C'est-à-dire que la personne, elle vient sur mon compte Facebook mettre des commentaires qui sont haineux, vous voyez. Et elle est chrétienne, en fait. Merci pour le témoignage. Bon, cette personne, allez, je vais lâcher, il s'appelle Bruno. Évangile selon saint Bruno. Donc, je me suis intéressé à l'évangile selon saint Bruno. J'ai dit, bon, eh ben, c'est mon frère en la foi. Comment qu'on fait? Alors, je l'ai béni, hein. Je l'ai béni, et puis, ma foi, c'est, tu sais, vous savez, c'est... fameux morceau de bûche, là. Mais vous savez qu'il y a des bûches, hein, au milieu de nous. Hein. Pardon, hein. Soyez pas choqués. Hein. Il y a des morceaux de bûche. Hein. Ouais. Et est-ce qu'on est capable, quand vous entendez un truc comme ça, ah, vous mettez ça sur le dos des antibiotiques, hein, c'est pas grave. Mais est-ce que vous êtes capable de dire, suis-je moi-même un morceau de bûche? Parce que c'est ça le plus important. C'est pas l'évangile selon saint Bricout, c'est toutefois, est-ce que si Jérémie dit ces choses, est-ce que je peux pas tout simplement sonder mon cœur et me dire, suis-je un morceau de bûche sur deux pieds? Suis-je en capacité de renouveler mon intelligence et de sonder mon cœur? Est-ce que ce n'est pas là l'exercice quotidien des enfants de Dieu pour ne pas devancer son frère ou sa sœur, mais bien se ranger à ses côtés? Êtes-vous un morceau de bûche sec et dépouillé de tout fruit, de toute saveur? Nous avons constaté que la richesse qui fait le corps de Christ à cause des différentes saveurs qui sont au milieu de nous, puisque nous sommes chacun une saveur différente, un fruit différent. Parce que nous savons que souvent, en fait, c'est difficile pour les autres d'accepter, en fait, aussi ce que nous sommes à cause de notre différence, de nos parcours différents. De 1 Corinthiens 13. Voilà. Christ nous dit à un moment donné, il dit, ne faisons exception de personne. Et acceptons la couleur qui fait le tabernacle. Parce que nous sommes quand même très beaux, je trouve. Parce qu'il y a des fruits au milieu de nous qui sont excellents et qui ne demandent qu'à être mangés par les uns et par les autres. Et je voudrais te poser la question suivante. Toi, mon frère, ma sœur, mon bien-aimé, quelle est ta capacité d'enracinement? Est-ce que tu es un touriste ici? En fait, j'ai eu une discussion avec un frère, cette semaine, je crois, et je lui ai dit, je ne sais pas, peut-être des choses qu'il n'a pas aimé entendre, je ne sais pas. Mais en tout cas, il m'a dit ceci, il m'a dit, tu réagis avec tes peurs. Et en disant en fait que que j'avais peut-être la peur de l'abandon, de perdre mon frère, de le voir s'éloigner. Alors je lui ai tout bonnement répondu, oui, j'ai peur que tu m'abandonnes. Mais j'ai dit, Seigneur, libère-moi de cette peur pour que malgré tout, en fait, je reste solidement attaché à toi avant qui que ce soit d'autre. Toutefois, j'ai réfléchi parce que moi, quand on me dit quelque chose, j'ai pour habitude immédiate de sonder mon cœur. J'ai dit parce que si la personne me dit quelque chose, elle a peut-être raison. Et si elle a raison, c'est de mon devoir de changer l'état de mon cœur. Alors, je me suis posé la question, j'ai dit, Seigneur, comment ça se fait que je peux réagir avec mes peurs, avec cette peur liée à l'abandon de mes frères et sœurs? Et je lui ai dit comme ça, je lui ai dit, tu sais quoi, si je pouvais je ne sais plus exactement le mot que j'ai utilisé, j'ai dit, si je pouvais te garder attaché ici, je le ferais. Si je pouvais tous vous garder ici attachés, je le ferais, sachez-le. Hein. Non mais, les choses soient claires, s'il y en a un qui me dit, moi je veux changer d'église, moi je vais lui dire, non, tu restes ici. Quelles sont tes raisons, frère, sœur, de changer d'église? Tu restes avec moi. Pourquoi? Parce que moi, l'édifice, la pierre, elle va être manquante. Là, qui va remplir le vide? Moi, j'ai pas envie que je suis un être humain, je suis une pierre vivante. En fait, j'ai besoin de vous. Hein. Mais c'est pas que des mots. C'est-à-dire que s'il y a une pierre qui s'en va, moi, mon château, il s'écroule. Mais c'est parce que aussi j'ai rejoint. Si j'avais voulu que mon château ne s'écroule pas, vous savez ce que j'aurais fait? Je serais resté dans mon propre royaume, en fait. Et mon propre royaume selon mes propres lois. Aimez et je me serai protégé de vous. Voilà. Voilà. Comme ça, au moins, j'étais tranquille. J'avais pas la crainte de vous perdre. Mais j'ai accepté de faire partie d'un royaume qui est celui du corps de Jésus-Christ, dont vous faites partie, dont vous êtes mes frères et mes sœurs. Croyez-vous que je puisse dire que vous êtes mes frères et sœurs sans en penser un mot? Je ne peux pas. Vous êtes mes frères et sœurs. Croyez-vous que j'accepterai que l'un de vous quitte cette église comme ça sans rien dire? Mais non, vous allez rester ici.
Alors, évidemment, pesez mes mots, les amis. Vous êtes libres en Jésus. Vous êtes libres et le Saint-Esprit, nul ne sait d'où il vient et nul ne sait où il souffle. Et nul ne sait si demain vous êtes appelé ailleurs. Évidemment, soyez libres. Je vous renvoie libre après mes propos, voilà. Mais, si c'est pour des motifs différents, je n'accepterai pas que mon frère ou ma sœur me quitte sans que je ne dise mot. Voilà. Et la question était celle-ci. Et toi, mon frère, ma sœur, quelle est ta capacité d'enracinement? Parce que Dieu veut tester ta fidélité. Et parce que si tu n'es pas fidèle dans les petites choses, il ne pourra pas t'en confier de plus grandes. Et l'église du tabernacle est ton terrain d'entraînement. Voilà c'est quoi l'église du tabernacle. L'église du tabernacle, c'est ton terrain d'entraînement. C'est là où tu vas pouvoir exercer le don que le Seigneur t'a donné. C'est là où tu ne seras pas jugé, normalement, par tes frères et sœurs. C'est là où tu seras aimé pour qui tu es en Christ Jésus. Et c'est eux, tes frères et sœurs, qui vont t'aider à grandir et qui vont venir confirmer le don qui t'a été donné. Dieu veut tester ta faculté à aimer celui qui est à côté de toi maintenant. Il veut tester ta faculté à aimer la diversité au milieu de son peuple, en avoir en l'autre une source de bénédiction et des fruits que tu n'as pas. Dieu veut que tu éprouves ce qu'est la joie de donner, de ne pas être simplement dans une attitude de recevoir, mais il veut faire vivre son Église, Dieu, afin que toutes les saveurs qui composent son Église puisse monter vers lui comme un parfum qui lui est doux et agréable, un parfum de bonne odeur. C'est ce que nous sommes. Et ce que Dieu attend de son peuple, son héritage, se trouve en 1 Pierre 9, verset 10, s'il te plaît. 1 Pierre 9 à 10. Et voilà ce qui nous distingue. Je disais, j'ai commencé ce message avec, en disant que la famille de Dieu n'a pas d'égal sur la terre. Et c'est vrai. Ce qui nous distingue, c'est que nous, au contraire, et on marque la différence. Voilà, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Ça, c'est notre héritage. Et là, je pense qu'on peut se l'approprier là maintenant. Ça, c'est notre héritage de fils et de filles. Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Je vais m'arrêter là. J'ai fait un peu long, navré. Mais je veux vraiment que toutes ces paroles qui ont été dites ce matin, abstraction faite de l'évangile selon Saint Bricout, mais appropriez-vous toutefois le fait que le Seigneur veut vous voir enraciné. Puisque si nous ne sommes pas enracinés, et si l'arbre pense qu'il peut aller de lieu en lieu sans ne jamais s'enraciner nulle part, il ne portera jamais de fruits. Il ne pourra jamais se nourrir convenablement. L'arbre doit être planté. Il doit s'enraciner pour pouvoir donner du fruit. Je vous libère encore une fois par le fait de vous dire que je ne vous emprisonne pas, évidemment, ce matin, mais je vous libère dans les dons que vous avez reçus, au contraire. Et je vous dis simplement que pour porter du fruit, il faut s'enraciner dans la vérité. Il faut s'enraciner et il faut s'exercer.
Et qu'ici, le tabernacle est une excellente, est un excellent champ d'entraînement. Amen. Alors, je vous bénis, les frères et sœurs. Et